Salut, c'est Tumult du site lâcheurdetemps.com. Merci à vous qui êtes en train d'écouter cette émission. Bienvenue aux nouveaux. Merci à ceux qui nous suivent pour cette cinquième interview. Aujourd'hui, nous allons consacrer cette émission à un gars qui s'appelle Philippe Supera, que je connais tout simplement parce que c'est le type qui gère le serveur qui héberge notre site. Alors, quel est l'intérêt d'interviewer ce mec? C'est parce que son hébergement, c'est-à-dire voilà, un endroit où on met des sites web, notamment le nôtre, est très particulier parce que c'est un hébergement associatif. C'est pas le seul sur le net, mais l'hébergement associatif est suffisamment rare pour être souligné. La plupart du temps, tous les trucs online.net, OVH, machin, c'est des grosses boîtes. Alors, qu'est-ce que ça apporte de plus, l'hébergement associatif? Eh ben, déjà, c'est un type qui est accessible. On a un problème, on lui pose la question, il répond en général à une vitesse hors du commun. Je pense que c'est le seul autre être humain à avoir dépassé la vitesse de la lumière en tant que en répondant à des questions. Et en plus de ça, c'est un gars qui a des convictions sur ce qu'est le net, sur ce que devrait être le net. Et quand vous allez écouter cette interview, vous allez voir que les convictions qu'il a, elles viennent pas de nulle part. Parce que ce gars-là, je pense qu'il me contredira pas sur ce point-là, c'est un vieux baroudeur du net. Il a fait partie parmi les premières personnes en France à avoir eu entre les mains cet outil. Et vous verrez que c'est pas inintéressant du tout à écouter. Sinon, excusez-moi platement pour la piètre qualité sonore de cette interview. C'est une interview que j'ai faite par téléphone et mon brave microphone a pris toutes les parasites qu'il pouvait attraper. Je m'en suis pas rendu compte en le faisant. J'ai essayé de rendre ça le plus audible possible, mais bon, voilà, j'espère que ça sera pas trop désagréable. Vous constaterez les effets que j'ai appliqués en entendant ma magnifique voix de canard quand je pose des questions, c'est fort drôle. En tout cas, merci à vous de nous écouter. N'hésitez surtout pas à passer ce lien, en parler. Moi, j'estime que les gens dont on parle valent le coup qu'on les entende. Alors, merci encore. Je vous laisse avec le jingle et juste après, l'interview. Ah, je l'aime, notre jingle. Merci encore à Kokonotsu de nous l'avoir fait, enfin, de l'avoir remixé. Donc, je vous laisse avec Philippe Supera. La première question que je lui pose est: peux-tu nous raconter ton histoire avec Internet?
Ça remonte aux années 92-93. Les premières expérimentations avec l'Internet, en fait, c'était avec CompuServe à l'époque, qui n'avait pas encore de fournisseurs d'accès ou très très peu en France, à part des services de ce genre qui étaient en fait des réseaux américains. Et à l'époque, moi, je programmais des logiciels shareware, c'est-à-dire des logiciels qu'on peut essayer avant de les acheter s'ils conviennent. Et ces logiciels-là, ils étaient essentiellement distribués sur disquette avec des magazines. On parlait même pas encore de CD-ROM, je pense. D'ailleurs, j'avais commencé ça avant l'Internet, hein, dans les années 88, fin des années 80, quoi, disons. Et donc, voilà, m'intéressant à l'informatique, à la programmation, j'avais entendu parler de CompuServe et des réseaux et des forums, notamment, qui permettaient aux informaticiens d'échanger des combines, quoi, des trucs, des méthodes de programmation, etc. Donc, je m'étais intéressé à ça, j'avais trouvé CompuServe, j'avais pris un abonnement. À l'époque, on se connectait par ligne téléphonique, on payait la connexion à la durée, à la minute, quoi. Comme une communication téléphonique, en fait. Voilà, ça a été le tout début de... Ça a été mes premiers pas, en fait, sur Internet. Ensuite, eh bien, des fournisseurs d'accès français ont commencé à apparaître. Et je me suis abonné à Planète FR. C'était un fournisseur d'accès qui se situait à La Ferté-Bernard, en Sarthe. La Ferté-Bernard, c'est une petite ville où se produit tous les ans un salon international des technologies et de la robotique, il me semble. Et je crois que c'est dans le cadre de ce salon que le premier serveur Internet a été mis en place en Sarthe, et ils ont proposé aux particuliers à un moment donné de profiter de la disponibilité de ce serveur sous forme d'abonnement. Donc j'ai dû faire partie des 150 premiers utilisateurs, je crois, de ce service-là. Et puis bah après voilà, Internet a commencé à se développer, sont apparus des fournisseurs d'accès comme Club Internet ou Anadou, etc. Et là où vraiment ça a pris une tournure plus importante en ce qui me concerne, c'est quand la DSL est devenue disponible au Mans, qui a été la ville, une des villes en tout cas, peut-être la première, où la DSL a été expérimentée. Et bon, bah, comme moi, évidemment, j'étais très intéressé par tout ça à l'époque. Je vivais de mon activité de distribution de shareware. Le fait de pouvoir accéder à la DSL, d'avoir une meilleure qualité de connexion, bah, c'était important pour moi. Et pour l'anecdote, en fait, à l'époque, on avait un très bon service ADSL sur le Mans, au centre-ville, puisqu'on avait du 2 mégabits full duplex chez Wanadoo, qui existait déjà et qui, au préalable, proposait des abonnements à RTC, hein, c'est-à-dire sur ligne téléphonique. Et donc, moi, j'ai pris ça et j'ai commencé à mettre en place de façon tout à fait artisanale, je dirais, quasi expérimentale, mon propre serveur pour héberger mon propre site web. Donc ça, c'était, je pense, en 98, quoi. Donc voilà un petit peu pour le cadre de ma découverte de l'Internet et de mon implication dans un premier temps en tant qu'hébergeur expérimental, et après par la suite bah, ça s'est un petit peu organisé pour redevenir ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire un service d'hébergement associatif, quoi. Voilà.
D'accord. Et donc quelles ont été les étapes entre donc ce petit hébergement expérimental et le LibreOctet dont on parlera un petit peu plus tard peut-être?
Ben, en fait, donc au tout début, j'étais mon seul hébergé sur ce petit serveur branché 24 heures sur 24 via la DSL au Mans. Il se trouve que j'avais pas de local personnel au Mans, puisque moi je vis à la campagne, hein, comme je disais tout à l'heure avant l'interview. Je suis en Sarthe, en fait, à la limite de la Sarthe et de la Mayenne, dans un petit village qui s'appelle Roissé-Vassé, pas très loin de Guillaume. Donc, je travaillais d'ici, hein, je faisais de la distribution, du développement et de la distribution de logiciels shareware à l'époque. Et donc, je le faisais via l'Internet, déjà, à travers mes différents fournisseurs d'accès, quoi. J'avais les pages web, les sites web fournis avec les abonnements. Et donc, quand la DSL est devenue disponible au Mans, il a fallu que je trouve un local pour pouvoir avoir une ligne téléphonique, puisque la DSL n'était disponible que sur le centre-ville du Mans. Donc, la solution que j'ai trouvée à l'époque, n'ayant pas trouvé à louer un local, ça a été d'installer mon serveur et ma ligne téléphonique chez un copain, artiste peintre, qui avait un genre de loft, un grand truc, un grand local sous les toits, en plein centre-ville du Mans. Et donc, eh bien, après avoir hébergé mon propre site web sur ce serveur, eh ben, l'artiste en question a été mon deuxième hébergé. Il a eu son propre, il a fait probablement partie des premiers artistes en France à avoir son propre site web avec son propre nom de domaine dans ce cadre-là, quoi. Donc, le service d'hébergement est né comme ça, sachant qu'à l'époque, je savais pas du tout que j'allais devenir un hébergeur associatif et que ça allait prendre une tournure plus importante. C'était vraiment à titre expérimental et par curiosité. Moi, j'ai toujours été très curieux de tout ce qui se fait en informatique, et évidemment passionné d'Internet depuis le début. Donc bon, voilà, dès que j'ai su que la DSL était disponible, je me suis dit, bah voilà, ça va me permettre d'avoir mon propre serveur, d'apprendre comment fonctionne Internet, donc mettre en place un serveur web, un serveur de messagerie, un serveur FTP, toutes ces choses-là. Et donc, bah voilà, pendant quelques semaines, voire quelques mois, on a été deux sur ce serveur, c'est-à-dire moi et puis l'artiste en question qui s'appelle Bertrand Thomas, dont le site est toujours hébergé d'ailleurs dans le cadre de LibreOctet, puisque c'est bertrand-thomas.com. Ouais. Alors après, bah, les étapes, ça a été le bouche à oreille finalement qui a fait se développer cette activité. Bon, c'était de l'hébergement entre copains, quoi. Les différentes personnes que je connaissais à l'époque, surtout d'ailleurs dans le milieu artistique, musical, culturel, dirons-nous, sont venus mettre leur site web sur mon serveur, un peu comme ça, par amitié, par bouche à oreille, par curiosité. Et puis c'était amusant, quoi, d'avoir comme ça son site sur un serveur un peu expérimental. Pour l'anecdote, à une époque, c'est assez amusant. Comme le serveur était sous les toits, dans un loft, dans le centre-ville du Mans, et qu'il n'y avait pas d'isolation, eh bien, en été, ça chauffait très fort, quoi. La température pouvait monter à 45 degrés sous le toit en question. Et donc, ça, évidemment, pour un serveur, c'était pas terrible, quoi. Et de temps en temps, la machine plantait. Donc moi, comme j'habitais à 45 km, et ben c'était pas facile quand Bertrand était absent de redémarrer la machine, quoi. Et un jour, j'ai eu une idée assez marrante, c'était de refroidir le serveur. Et bon, je me suis intéressé aux solutions disponibles dans le commerce pour refroidir des machines, et c'était très très coûteux. Donc finalement, la solution pour laquelle j'ai opté, ben, j'ai acheté un frigo, tout simplement. Pas très cher, je sais plus, ça devait être de l'ordre de 45 euros, on parlait pas en euros à l'époque, c'était en francs, mais c'était pas vraiment pas cher. Et puis j'ai monté le serveur à l'intérieur du frigo, que je mettais au thermostat zéro pour le maintenir à une température de 20 degrés, quelle que soit la température extérieure. Donc, même quand il faisait 45 sous les toits, le serveur ne plantait plus jamais. Et on avait trouvé une solution qui permettait un fonctionnement optimal, quoi. Donc voilà, c'est un peu comme ça que Libre-Octet est né. On n'appelait pas ça Libre-Octet à l'époque, c'est passé par différentes étapes, jusqu'à ce que à un moment donné ça soit repris dans le cadre d'une entreprise que j'ai créée avec un associé de ma région, dans le cadre d'un projet de déploiement du haut débit sur les zones rurales qui étaient très très mal desservies, qui ne sont pas encore très bien d'ailleurs. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas encore la DSL en France, faut le savoir. Donc on avait, avec un gars du coin, développé un système qui permettait de déployer le haut débit sur la base d'un procédé qu'on appelait la BLOR, la boucle locale optique radio, qui avait été inventée par mon associé, et qui permettait donc de constituer une artère centrale sur la base d'un signal laser qui se répétait tous les 800 mètres. Et à partir des points hauts disponibles dans la région, les châteaux d'eau, les clochers, et choses comme ça, on pouvait déployer du relativement haut débit, hein, jusqu'à 2 mégabits, chez les particuliers, chez les gens, quoi. Donc ça avait donné l'occasion de la constitution d'une SARL avec l'associé en question. Et là, du coup, on avait repris mon activité qui était encore à ce moment-là assez, je dirais, artisanale, assez amatrice, quoi, dans un cadre plus sérieux. Donc là, on a structuré un peu les choses et le service d'hébergement DRI.fr, qui existe toujours, est né de mes premières expérimentations, quoi. Donc voilà, ça a été une étape importante, la structuration plus professionnelle, disons, du service d'hébergement. Et ensuite, bon, il se trouve que pour un certain nombre de raisons, l'activité de déploiement de haut débit a été finalement reprise par des opérateurs comme Altitude Télécom à l'époque, qui entre-temps a été racheté par Free. Comme ce projet-là ne s'est pas concrétisé, on s'est recentré sur l'activité d'hébergement, quoi. Et bon, pour un certain nombre de raisons, je disais tout à l'heure, moi je suis pas resté dans cette entreprise, je l'ai quitté au bout de quelques années, de 2 ans je crois, 2 ou 3 ans. Et c'est comme ça que finalement j'ai repris mon activité d'hébergement, mais cette fois non pas dans un cadre professionnel, je dirais commercial, mais dans un cadre associatif. J'ai finalement opté pour le cadre associatif, qui correspondait plus à ma façon d'envisager les choses, à ma sensibilité et à ma manière de travailler, disons. Faut dire que bon, de personnalité, je dirais, ou de sensibilité, je suis pas très commercial, quoi. Je suis pas vraiment quelqu'un qui a le profil pour développer un chiffre d'affaires de façon tout à fait classique. Ça me passionne pas, quoi, le commerce, la concurrence, tous ces trucs-là, je me sens pas très concerné. Donc du coup, le cadre associatif titre m'a semblé plus approprié pour faire de l'hébergement à ma manière et avec les gens qui m'intéressent finalement. Il faut bien dire qu'aujourd'hui, Libre-Optet, c'est essentiellement un service d'hébergement associatif qui s'adresse à des gens qui font des choses qui me plaisent. La plupart du temps, c'est un peu ça le critère, quoi. C'est le bouche à oreille et aussi ma sensibilité à ce que les gens font. Alors bon, la grande majorité des sites, c'est des petites troupes de théâtre, des musiciens, des gens du monde associatif, quelquefois des particuliers. Il est arrivé qu'il y ait quelques petites entreprises, mais c'est minoritaire, quoi. C'est vraiment essentiellement, je dirais, dans le monde associatif que Libre-Optet trouve ses interlocuteurs en tant qu'hébergeur.
Ok. Et comment, en fait, est-ce que tu as envie de ça maintenant?
Alors non, en fait, mon activité d'hébergeur associatif, pour l'instant, je l'exerce de façon bénévole, sachant que bon, on est relativement peu nombreux hein, sur ce service. Je pense qu'il doit y avoir à peu près une soixantaine de sites hébergés. Donc ça ne me permet pas d'en vivre. Le projet, c'est si ça se développe, peut-être que je devienne salarié de l'association, au moins à temps partiel d'ici quelques temps, ce qui serait évidemment une solution plus confortable pour moi que le strict bénévolat. Lorsque l'association collecte suffisamment de cotisations et de dons de la part de ses membres, je me rembourse mes frais de fonctionnement au moins. L'un des buts que je m'étais fixé en constituant l'association, c'était déjà que ça ne me coûte plus rien, parce qu'au début, finalement, les frais de fonctionnement du réseau, des différents serveurs, etc., ben, ils étaient à ma charge quand j'ai quitté l'entreprise dont je parlais tout à l'heure. Donc, ce but-là a été atteint. Maintenant, il faut franchir d'autres étapes, se développer un petit peu, de façon à ce qu'il soit possible de rétribuer un peu mon travail. Je fais pas que ça, hein, j'ai d'autres activités qui me permettent de vivre. Notamment, je travaille à temps partiel dans l'éducation nationale. Je fais quelques activités, j'ai aussi quelques activités dans le monde associatif, pour des MJC par exemple, le planning familial, etc. Donc l'activité d'hébergement à proprement parler n'est pas celle qui me fait vivre.
Et qu'est-ce que, en faisant en Libre-Optet, qu'est-ce que tu as essayé d'apporter de plus que ce qu'on pouvait avoir dans un hébergement lambda qu'on trouve partout
sur Internet? Déjà, disons que ce que j'apporte, c'est une alternative à un marché de l'hébergement standard qui est largement basé sur un modèle économique classique utilisant la publicité, faisant du marketing, etc. Il se trouve que Libre-Optet ne pratique pas du tout de la même façon que les hébergeurs qu'on connaît, qui sont des hébergeurs de masse, hein, qui font de l'hébergement à grande échelle, comme, je sais pas moi, Amen, OVH, pour citer ceux qui me viennent à l'esprit, Orange, qui fait ça aussi de façon professionnelle pour les entreprises la plupart du temps. Donc voilà, la première idée, c'est d'échapper un petit peu à cette logique là, qui procède par des méthodes de marketing basées sur la publicité et tout ça. Moi, je suis pas très heureux du système tel qu'il existe dans notre société actuellement. Donc, mon but, c'était un peu d'échapper à cette logique-là et de fonctionner autrement. Donc déjà, le but de Libre-Optet, c'est d'offrir un hébergement qui soit totalement indemne de publicité et de logique de marketing, quoi. Le but, c'est pas de se développer et d'être un jour coté en bourse et d'avoir des actionnaires et de faire le plus d'argent possible. C'est de fonctionner d'une manière qui soit basée sur une question de sensibilité. C'est l'hébergement, entre guillemets, un peu alternatif, humain, quoi, qu'on propose. Et le deuxième volet l'originalité de Libre-Optet, c'est d'essayer de proposer ce que j'appelle de l'hébergement de l'Internet citoyen, un peu de l'Internet raisonné, je dirais, hein. Aujourd'hui, sur Internet, il y a des phénomènes absolument énormes qui se produisent en matière de perversion des systèmes, et notamment il y a le phénomène du spam. Une des particularités de Libreoptère en tant qu'hébergeur, c'est précisément d'essayer de ne pas contribuer au phénomène du spam en sensibilisant ses hébergés à quelques précautions et à quelques manières de faire qui évitent une contribution même passive au développement du spam, quoi. En fait, moi, une de mes activités au quotidien, justement, c'est de m'occuper du serveur de messagerie, du réseau de Libreoptère, de manière à faire en sorte que les hébergés ne reçoivent pas de spam ou le moins possible. On ne peut pas l'éliminer à 100%, mais je pense qu'à peu près 90% du spam qui arrive sur les serveurs SMTP de Libreoptère, sur les serveurs SMTP de Libreoptère, est éliminé d'emblée. Il ne va pas jusqu'à la boîte aux lettres des hébergés. C'est un service que j'ai développé depuis le début, donc qui bénéficie maintenant de quelques années d'expérience et qui se montre assez efficace. Quoi. C'est une combinaison en fait de techniques qui sont mises en œuvre pour faire en sorte que les hébergés ne reçoivent pas de spam. Et un certain nombre de types de filtres, de recours à ce qu'on appelle des RBL, c'est-à-dire bon, des bases de données qui sont alimentées par les différents acteurs du réseau qui s'implique dans la lutte contre le spam. Et puis il y a des filtres plus, je dirais, plus locaux, plus spécifiques à Libreoptère que je développe au fur et à mesure et que j'enrichis quand des hébergés me signalent que certains spams arrivent à passer quand même, quoi. Donc ça c'est un aspect important de l'association Libreoptère, c'est son implication dans la persistance d'un Internet qui échappe au pourrissement qu'on a pu voir se développer notamment depuis l'année 2000, qui est l'année qui a marqué le fort développement de l'Internet. Et malheureusement, un développement de l'Internet qui n'a pas été accompagné d'une formation des utilisateurs. C'est-à-dire que un grand nombre d'internautes aujourd'hui se trouvent être constitués d'utilisateurs qui n'ont jamais appris à se servir d'Internet correctement. Dans les premiers temps, finalement, l'Internet c'était essentiellement utilisé par des techniciens, des informaticiens, qui grosso modo comprenaient un peu comment ça marchait et donc respectaient les protocoles, ce qui faisait que ça fonctionnait relativement bien et qu'il n'y avait pas trop de pourrissement. Bon, maintenant, l'Internet, ça ressemble quand même beaucoup à ce que serait le réseau routier, par exemple, si les usagers conduisaient leur voiture sans avoir appris le code de la route et sans savoir conduire. Donc bon, on imagine le bazar que ce serait. Le réseau Internet, c'est jamais qu'un réseau à la base, hein, donc c'est très comparable au réseau routier. Et pour l'utiliser correctement, il faut apprendre un minimum de choses. Connaître un petit peu la netiquette, déjà, ce dont beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler, quoi. Donc voilà, connaître un petit peu le code de la route du réseau. Ça, Libreoptère, en tant qu'association et en tant qu'hébergeur, incite les gens à s'y intéresser. On invite nos nouveaux hébergés à se documenter un petit peu là-dessus et à essayer d'éviter de contribuer, quand bien même sans le savoir, au développement du pourrissement dont je parlais tout à l'heure.
Il y a un autre point dont tu as parlé sur Libreoptère, c'est l'utilisation du logiciel libre aussi dans les serveurs, etc.
Ah oui, tout à fait. Oui, c'est un aspect qui m'est passé par l'esprit tout à l'heure, puis j'ai oublié de t'en parler. C'est effectivement une association qui fonctionne exclusivement grâce à des logiciels libres. C'est-à-dire que tous les services qui sont proposés sur la plateforme d'hébergement sont des logiciels que l'on peut trouver sur Internet dans le cadre des différentes licences qui garantissent les fameux droits liés à l'open source et aux logiciels libres. Alors par exemple, le serveur HTTP, le serveur web, c'est Apache, hein, c'est l'un des logiciels serveurs les plus connus de l'Internet. Dans le même ordre d'idée, le serveur SMTP POP, serveur de messagerie, c'est Xmail. C'est un logiciel qui est peut-être pas aussi connu que Apache, mais qui lui lui aussi respecte les principes des logiciels open source et libres. Donc voilà, ça c'est un choix qui est de réserver exclusivement les services au cadre du logiciel libre et open source. Quoi. On n'utilisera jamais les logiciels dits propriétaires, c'est-à-dire les logiciels dont on ne peut pas déjà contrôler le contenu et la manière d'être programmé, ce qui est le cas par exemple des logiciels Microsoft qui ne sont distribués que sous une forme qui les rend opaques, hein, que les informaticiens ne peuvent pas vérifier. Et d'autre part, ces logiciels-là, ils sont assujettis à des licences, à des droits d'utilisation onéreux. Pour ça, c'est pas possible pour une association comme LibreOctet de payer des licences à Microsoft pour pouvoir fonctionner et exister. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on n'utilise que des logiciels libres. D'ailleurs, il faut préciser quand même que les logiciels libres sont pas forcément gratuits, hein. On peut aussi les acheter, les commander chez les différents éditeurs qui les produisent, enfin qui les distribuent. Un logiciel libre, c'est quand même un logiciel qu'on peut télécharger et utiliser légalement et gratuitement. Ça correspond tout à fait à ce qui permet de fonctionner dans le cadre associatif, quoi.